Couture dans le mythe.
Avec Pierre Couture. Et Nick Cloutier.
Radio X.
Ouais, grosse rentrée parlementaire aujourd'hui, ici à l'Assemblée nationale.
Ah oui.
Il est là, notre gars?
Il est là.
Chronique politique avec Rodolphe Osney.
Rodolphe, comment ça va?
Bonjour Pierre, bonjour Nick, bonjour Québec.
Salut.
Oui, ça va, mais oui, comme tu disais, grosse rentrée parlementaire à Québec.
Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Bon, c'est sûr, la CAQ, là, tout le monde a... Écoute, Mme Fréchette reçoit des attaques de Bernard. Bernard tire partout. T'as quand même Charles Milliard qui semble se diriger vers un espèce de couronnement. Et t'as Marois Risky aussi qui s'amène dans l'allée, là, si on veut, là.
Oui, écoute, si tu regardes les nouvelles aujourd'hui, alors comme tu viens de le dire, première journée à l'Assemblée nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire retour de Marois Risky qu'on n'a pas revu depuis tout le scandale au Parti libéral. C'est aussi à la CAQ, ne l'oublions pas, retour de Lionel Carman aussi qui revient comme député. Puis on a aussi vu dans l'actualité aujourd'hui un long article de Pablo Rodriguez qui lui aussi règle ses comptes indirectement avec Marois Risky. Il parle de putsch, il parle de coup d'État. Et on a aussi eu ces informations concernant Marois Risky, qu'on commence à avoir des informations plus juridiques. Puis je vais faire attention parce que on n'est pas avocat, mais que certaines informations commencent à sortir sur les motifs du congédiement de Mme Hinze. Qu'est-ce qui marchait pas? Pourquoi finalement Mme Hinze a été limogée par Mme Risky? On parle que d'utilisation de fonds parlementaires pour des activités partisanes. On parle aussi qu'elle a été informée qu'il y avait du cash au bureau de la fameuse députée libérale, Mme Lacoyanne Olivier. Donc, tu vois que dans dans tout ce contexte-là, c'est comme ça qu'on rentre à l'Assemblée nationale. Puis oui, comme tu viens de le dire, à la CAQ, d'un côté, on a Mme Fréchette, de l'autre côté, on a M. Drainville, puis M. Drainville qui est allé quand même très, très fort ces derniers jours. Mmh. Écoute, il est maintenant de centre-droit ou de droite, je ne sais plus. Et surtout, il a fait une grosse différence, surtout sur le programme concernant l'immigration, le fameux programme Expérience Québec, où lui est d'accord de donner une clause grand-père. Donc, ça veut dire que ça va pas bien, ça va brasser avec le ministre Roberge, bien évidemment.
Oui, puis là, Drainville, lui, il joue le gars de l'anti-establishment, là. Tu sais, Fréchette, elle, c'est la ministre de l'économie, remplacée Fitzgibbon, très polie, pas capable de jeter les gants, puis je pense pas qu'elle soit de taille avec Bernard Drainville, là, si elle veut partir un débat d'idées. Mais Drainville, lui, va jouer l'anti-establishment. Puis à un moment donné, ben, il essaie de brasser des cartes, il essaie d'amener des lumières aussi sur cette course-là, là.
Oui, tout à fait. Il faut pas oublier que, bon, au-delà de la communication, au-delà des positions, au-delà même de la course pour, OK, combien de députés t'as de ton bord ou combien de ministres t'as de ton bord, et on a vu, bien sûr, que Mme Fréchette est rendue à plus que 30, presque 40 députés ou ministres de la CAQ qui sont de son bord. Pas bien, tout d'abord, c'est d'abord une course où il faut vendre des cartes de membres. Là, ça veut dire c'est bien beau de se dire, OK, regardez, moi, j'ai tant de députés de mon bord. Si ces députés-là vendent pas des cartes de membres, on va pas aller plus vite. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend, puis ça, c'est des informations qui circulent, que oui, il y a peut-être beaucoup de ministres ou de députés qui sont du côté de Mme Fréchette, mais on dirait qu'il y a pas mal de staff politiques, comme on appelle, de conseillers politiques dans ces fameux bureaux de ministres qui, eux, sont plus du côté de M. Drainville. Donc, c'est pour ça que ça va être super, super intéressant. Et comme tu viens de le dire, Pierre, cette fameuse phrase qui va rester de M. Drainville, « Je ne suis pas le candidat de l'establishment », ça veut dire que ça, c'est un peu le message subliminal que Mme Fréchette a eu peut-être un avantage concernant cette course, qu'on lui a dit un peu avant tout le monde, « Hey, prépare-toi, puis on serait possiblement de ton bord ». Donc, c'est intéressant comme message que M. Drainville commence à pousser en disant, regardez, mettez-vous de mon bord, tout le monde est du côté de Mme Fréchette, mais c'est moi qui est comme ça le vrai candidat, puis je vais reprendre ces expressions, le candidat du vrai monde.
Ouais, puis il doit vendre des cartes, hein, parce que c'est qui les membres de la CAQ? Moi, je sais pas, là, tu sais, je regarde autour de moi.
Ouais, c'est qui?
C'est qui?
La jeune CAQ.
Qui sont ces acheteurs de cartes de membres-là? Là, il faut que tu fasses lever le gâteau. Mais Drainville, il est capable de faire lever le gâteau, là.
C'est que tu mets vraiment, Pierre, le doigt sur le bobo ou le dilemme ou le problème, appelle-le comme tu veux. Ça ressemble à quoi un militant de la CAQ en 2026? Quel genre de personne est prête à prendre une carte, que ce soit pour Mme Fréchette, que ce soit pour M. Drainville, parce que ce parti n'a pas non plus d'histoire. Ça veut dire que c'est leur première course. On sait que c'est le bébé puis le fruit de François Legault. Mais maintenant, actuellement, en 2026, ce fameux nationalisme, autonomisme, centre-droit, pas centre-droit, je ne sais pas, ça mange quoi un hiver un militant de la CAQ? Puis c'est ça, là, en fait, c'est très difficile d'analyser cette CAQ parce que quand tu regardes que soit le Parti libéral ou que soit le PQ, tu es capable de savoir c'est quoi, puis ils ont une historique de militantisme, puis ils ont des bases de données depuis longtemps, tandis que la CAQ, pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi le profil type d'un électeur ou d'un membre de la CAQ qui va accepter de prendre et de payer 15$ puis de dire « moi, je veux Mme Fréchette » ou « moi, je veux M. Drainville ».
Donc, ça va prendre des organisations, faire sortir le vote là, de membres là, de la CAQ. Donc, vendre des cartes et qui aillent voter pour soit Drainville ou Fréchette, ça prend une organisation. Puis je ne sais pas si Mme Fréchette est organisée, mais je sais que Bernard Drainville peut l'être, là.
Oui, il y a deux éléments. Il y a un travail de terrain, puis tu fais bien de le mentionner, tout ce qui est organisation, des gens, des organisateurs qui sont sur le terrain, qui tapent aux portes, qui font des appels. Est-ce qu'ils ont la structure? Est-ce qu'ils ont mis en place cette fameuse structure? Il y a toute la guerre des communications, juste les médias sociaux. Si tu regardes Bernard Drainville, sur les médias sociaux, il est quand même une longueur d'avance juste en termes de reach, parce qu'il a été animateur, parce qu'il a été comme ça une personnalité qui est beaucoup plus connue à ce que ça va être une campagne beaucoup poussée sur les médias sociaux pour essayer de faire sortir le vote des jeunes, etc. Tout ça, c'est des stratégies que tu regardes. Et Mme Fréchette aussi doit essayer de se démarquer. Tu sais, c'est bien beau de dire « je veux faire ci ou je veux faire ça ». Elle porte aussi d'un côté tout l'héritage de François Legault. C'est peut-être positif d'un côté, mais il ne faut pas oublier que tous les gens voulaient du changement. Donc, Drainville, stratégiquement, lui, il a dit « moi, je fais une cassure ». Puis je suis capable de dire haut et fort, les subventions aux entreprises, j'en veux plus. Le troisième lien, j'ai pas besoin de consulter, c'est clair, précis. Et même de parler comme ça de privé en santé, en éducation, tout ça, c'est des positions qui sont quand même très intéressantes parce que ça permet de faire une ligne. En politique, Pierre, il faut toujours que tu arrives à faire une cassure, une ligne de démarcation avec ton adversaire. Et pour l'instant, Bernard Drainville a bien réussi à faire ça. On va voir comment Mme Fréchette peut continuer d'être soi-disant cette candidate de la continuité, mais avec une différence.
Voilà. Et pendant ce temps, Jonathan Julien, ministre, annonce que lui, c'est terminé, ne se représentera pas. Un autre aussi.
Oui.
Jonathan Julien, quand même, qui aime beaucoup les Lumières. Comment on interprète ça?
Bien, c'est intéressant parce que, d'un côté, Jonathan Julien, au début, il avait dit qu'il voulait que ce soit Simon-Jolin Barrette qui se présente. Il était de son bord. Ensuite, finalement, bien, Simon-Jolin Barrette a annoncé qu'il n'y allait pas. Jonathan Julien a annoncé, lui, qu'il resterait neutre dans cette course. Donc, tu te dis, ah, mais pourquoi? Pourquoi il ne va pas du côté de Bernard Drainville si on s'est posé des questions?
Ouais.
Et là, on apprend comme ça qu'il ne veut pas se représenter. Donc, en fait, que ce soit Mme Fréchette ou que ce soit M. Drainville, lui, il a comme dit, OK, c'est bon, c'est fini pour moi. Puis, honnêtement, c'est pas le premier, ça va certainement pas être le dernier. Ça fait plusieurs ministres, on sait par exemple Mme Lebel, etc., qui ont dit qu'ils vont mettre fin à leur carrière politique. Donc, ça va être aussi très, très intéressant. Cette fameuse CAQ qui va se présenter en octobre, puis je ne sais pas ça va être qui le chef, bien, il va rester qui? Puis est-ce qu'ils vont réussir aussi à recruter des nouveaux candidats, des nouvelles personnes pour combler le départ de ces députés et de ces ministres qui disent maintenant, c'est terminé, on met fin à notre carrière politique?
Ouais, parce qu'on riait en disant, ah, il y a peut-être l'aile jeunesse de la CAQ, mais moi, Rodolphe, à moins qu'il y ait peut-être des informations que j'ai pas, je ne sais pas c'est qui l'aile jeunesse, là.
Oui, non, c'est sûr. T'sais, on avait vu, ils avaient présenté un candidat là, dans Artabasca qui était très, très jeune, qui venait de cette aile jeunesse.
Ah, mais il a mangé le volet, là.
Oui, c'est ça. Écoute, je peux pas prédire ça va être quoi les résultats dans le Chicoutimi, mais ça va pas être joli non plus pour la CAQ. D'ailleurs, c'est une course à deux. On voit beaucoup, c'est le PQ avec le Parti conservateur du Québec. La CAQ est même pas dans le portrait. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Mais oui, Nick, tu poses la bonne question. T'sais, on ne sait pas c'est quoi un militant de la CAQ. On ne sait pas plus non plus c'est quoi là, un jeune militant de la CAQ. Puis c'est quoi la force du militantisme de l'aile jeunesse comparée de la CAQ.
Y a-t-il une relève, en fait, c'est ça?
Ben, c'est, on se la pose. Mais là, tu regardes le portrait. Le PQ descend. Là, tranquillement, la CAQ va avoir des lumières. Là. Bernard a l'air parti pour donner beaucoup de lumière à la CAQ. Ça va être bon. La CAQ va remonter d'un sondage. Le Parti libéral avec Milliard va remonter tranquillement. PCQ, Duhaime gagne aussi. Donc, ça fait en sorte qu'on s'en va peut-être vers un gouvernement minoritaire. C'est ce que je prédis, moi.
Oui, écoute, honnêtement, le paysage a complètement changé. Parce que d'un côté, tu avais Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça fait deux ans qu'il marche sur l'eau, en tête dans les sondages. Puis là, tout doucement, ça a commencé à la rattraper. Là, on l'a vu, par exemple, sur la fameuse sortie sur les artistes, hey, etc. Donc, tu vois, tu t'es dit, oh là là, est-ce qu'on est dans le même scénario de Pierre Poilievre qui, pendant 2 ans, était en tête dans les sondages, 20 points, puis on a vu ce qui est arrivé à l'élection. Ensuite, tu regardes les sondages de Mme Fréchette. Tu te dis, OK, est-ce que Mme Fréchette, c'est la nouvelle Carney de la CAQ qui va comme ça réussir à tout changer? En tout cas, si tu regardes le sondage Léger, tu vois que oui, elle arrive à faire monter la CAQ, même plus que François Legault. D'un autre côté, tu regardes Bernard Drainville, qui a un peu le défaut de ses qualités. Oui, il est plus connu, mais oui, il est beaucoup plus polarisant aussi.
Ouais.
Alors, tu te dis, hey, lui, est-ce qu'il va vraiment faire monter la CAQ ou pas? Puis comme tu as raison, tu as Charles Milliard qui arrive là-dedans. L'avantage de Charles Milliard, c'est qu'il ne traîne pas toutes les casseroles, mais d'un autre côté, il y a un méga déficit de notoriété, donc il doit essayer de se faire connaître. Mais regarde, tu regardes les sondages, ils n'ont pas de chef au Parti libéral du Québec, mais leur parti monte. Donc, tu te dis...
Marc Tanguay, c'est l'effet Marc Tanguay, je te l'ai dit.
C'est l'effet Marc Tanguay. Avec ses lunettes de soleil, oui, il a gagné 2 points.
Ben voilà. Non, mais Marc Tanguay est pas mal fait à l'époque, là. Tu sais, quand avant Pablo arrive, là, Marc Tanguay arrive, puis là... Le parti monte en attendant 1 milliard. Écoute, c'est très... c'est pas terminé, comme on dit. Là, au fédéral, là, t'as eu Poilievre, il a eu son vote de confiance, 87%. Lui, il est satisfait de tout ça. Mais Carney pourrait grappiller peut-être 1 ou 2 députés encore. Il y a encore de la grogne chez les conservateurs.
Écoute, je ne sais pas. Puis je me pose véritablement la question, puis je me suis fait poser la question. Honnêtement, si t'es un député conservateur puis t'es pas content, là, faut quand même que tu prennes le message qui a été envoyé aux membres puis aux militants. Là, ça veut dire les militants, il y a eu une opportunité. Si tu n'étais pas content, tu pouvais t'exprimer durant ce congrès. Mais on a vu, il n'y avait pas de mouvement organisé pour faire tomber M. Poilievre. M. Poilievre a eu 87 %. Faut qu'un député conservateur se pose, en tout cas à court terme, la question en se disant, bon, ben les militants sont derrière lui. Ben oublie pas, là, il s'est quand même fait élire, ce député conservateur-là, sous la bannière de Pierre Poilievre, à la dernière élection, puis les membres ont dit qu'ils voulaient le garder comme chef. Donc, ce serait comme bizarre pour un député conservateur actuellement de quitter le parti quand les militants ont renforcé comme ça leur confiance, en tout cas à court terme. Donc, je ne sais pas, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais moi, je trouverais que le député en question qui penserait franchir la barrière de l'autre côté, bien, il n'a pas reçu le message ou le mémo des membres, des militants du Parti conservateur, en tout cas.
Oui, mais on l'a vu, là, il y en a un qui a traversé, là, la veille, il était au party des conservateurs, puis le lendemain, il était au party des libéraux. Je veux dire, ça veut dire que lui, il est à tout, là, il est achetable.
D'ailleurs, c'est drôle, il y avait un clip, je pense qu'une des premières questions d'un député conservateur, je pense que c'est le député conservateur Groslot, il a posé une question au Parlement où il a fait une déclaration en disant qu'il attendait encore son 100$ du député libéral, anciennement conservateur, parce qu'il n'a jamais payé le 100$ pour le party de Noël qui est allé avec Pierre Poilievre, puis le lendemain, il est parti au party de Noël avec M. Carney. D'ailleurs, il est même allé en Chine, hein, ce fameux député libéral conservateur. Ouais. On le voit partout, il est tout le temps sur les images, j'arrête pas de le voir, j'avais aucune idée c'était qui avant.
Exactement. Et on va terminer avec ça. Stephen Harper, tu lui rends hommage là, dans ta chronique, dans Le Devoir, notamment parce qu'on va dévoiler l'espèce de tableau hein, des premiers ministres. Il va avoir son tableau, notamment au Parlement, c'est ça?
Oui, aujourd'hui à 4 heures, 20 ans après sa première victoire en 2006, 10 ans après sa défaite de 2015, le premier ministre Stephen Harper aura son portrait qui sera dévoilé aujourd'hui et suspendu comme ça sur les murs du Parlement. Tous les anciens premiers ministres ont comme ça leur portrait. Et aujourd'hui, c'est la journée pour Stephen Harper d'avoir son portrait. Puis toute cette semaine, on va célébrer, d'ailleurs, je me rends à Ottawa, on va célébrer les 20 ans de la première victoire de Stephen Harper en 2006. Puis oui, comme tu dis, j'ai écrit une sorte de petit leg. J'ai essayé de résumer un tout petit peu le leg de Stephen Harper, surtout en termes de commerce et d'économie. Moi, c'est des dossiers sur lesquels j'ai travaillé avec le premier ministre Harper. Puis j'arrive au constat qu'en 2015, quand Stephen Harper a perdu, oui, il a perdu, mais il avait laissé la maison en ordre, que ce soit sur le budget.
Ben oui.
Puis surtout, on n'arrête pas de parler de commerce international, qu'il faut se diversifier. Ben, Stephen Harper avait jeté les fondations de cette diversification avec des accords de libre-échange Canada-Europe, en Asie, etc., etc. Puisqu'on remarque, c'est que 10 ans après, ben, M. Carney essaye de continuer ce travail-là parce que pendant 10 ans, malheureusement, ça a été négligé par le premier ministre Trudeau.
Ah non, ça a été bousillé avec la Chine, l'Inde notamment. Là, on s'est mis à dos beaucoup de grands, grands pays qui ont fait très mal à l'économie. Puis si tu regardes là, le PIB par habitant en 2015, là, il y a vraiment par rapport aux Américains, là, eux autres continuent à monter, puis nous, on est en chute libre.
Oui, puis c'est pour ça. Puis même, tu sais, on se dit qu'il faut se diversifier, mais on l'avait, tu sais, c'est-à-dire on avait fait cet accord avec l'Europe, on n'en a presque pas parlé, on a fait l'accord avec le TPP. Justin Trudeau est arrivé avec sa politique féministe, progressiste, je ne sais pas quoi.
Woke, là, tout ça de patente par rapport, là.
Puis on a oublié de dire aux entreprises, « Hey, ce serait cool que vous alliez prendre et saisir des opportunités de marché dans d'autres pays. » On n'a pas voulu parler de ça. On a fait la politique des chaussettes colorées de Justin Trudeau. Ouais. On a vu ce que ça a donné. Puis maintenant, honnêtement, il faut le donner au premier ministre Carney. Il essaye de réparer les pots cassés. D'ailleurs, il doit aller en Inde bientôt. Donc, on verra si on aura un accord de libre-échange avec l'Inde à suivre. D'ailleurs, l'Europe vient d'en signer un avec l'Inde, donc on est en retard.
Ouais. Stephen Harper, tu as travaillé avec lui. Comment il était? Parce qu'il faut reconnaître, pour les Québécois, il nous a reconnus comme nation, là. Comment il était personnellement? Est-ce que c'était une personne qui était sympathique, qui était très, très donnait des ordres? Comment au day-to-day?
Ben, c'était une personne sérieuse. La vérité, moi, ce que je retiens de lui, c'est vraiment l'image d'un premier ministre au travail qui lisait tous ses mémos. Écoute, combien de ministres, des hauts fonctionnaires se sont fait attraper par Stephen Harper parce qu'il ouvrait le gros cartable et il disait « Hey,
à telle page
54, ouais. Là, c'est pas vrai ce que tu as écrit. » Puis tout le monde était comme « Oh là là, il est allé, il a lu tout le cartable. » Donc, moi, je pense qu'il a vraiment donné un sérieux, même à la machine gouvernementale à Ottawa. Tu savais que le premier ministre lisait tout, que le premier ministre était comme ça en contrôle de ses dossiers. Puis quand tu es en contrôle de tes dossiers en haut comme premier ministre, je peux dire que toute la machine aussi marche droit. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant. Moi, c'est ça que je retiens, c'est sa rigueur et surtout son sérieux en tant que premier ministre. On était respectés à l'international. Peut-être que ce n'était pas le premier ministre, comme tout le monde disait, avec qui tu as envie de prendre une bière, mais quand il y avait des négociations puis des décisions sérieuses à prendre,
c'est
lui que tu voulais dans la pièce.
Est-ce qu'on n'a pas eu avec Trudeau? Là? Trudeau, de toute évidence, ses dossiers, il ne connaissait pas. Là.
Non, je crois qu'après la deuxième page, j'ai arrêté de lire.
Non, c'est ça. Voilà. Rodolphe, tu es salué. À la prochaine. Salut.
À la merci, Pierre.
Bye. Bye.
Voilà. Rodolphe, qui était conseiller politique dans l'entourage de Harper pendant plusieurs années, il connaît toute la game, là. Toutes les scrums, toute la patente, comment la game évolue politiquement. En tout cas, regarde. Donc, Stephen Harper, qui était un très bon premier ministre en passant, il a ramené l'ordre. Il y avait des déficits importants. Il a donné la machine à Trudeau en ordre. Et Trudeau a déglingué la machine. Il l'a brisée. Voilà. Hey, on ouvre les lignes. Après
la pause. Justement, un petit breaking news. Tu sais, la fondue Horn, Glencore, qui devait investir 300 millions.
Fonderie.
Oui, la fonderie Horn. Faute d'avoir obtenu une entente avec le gouvernement du Québec, la compagnie Glencore annonce la suspension de ses investissements de 300 millions.
À suivre.
Tout à fait.
Ben là, il y a un gouvernement qui ne sera plus là dans quelques mois. Hein?
Il dit, ouais, je sais pas. Là,
la CAQ, ça.
On dit qu'en 2027, la fonderie ne respectera plus les termes de son permis. Fait que là, il fallait qu'ils investissent de l'argent. Puis ça a l'air qu'on est en train d'annoncer aux employés qu'on n'investira pas 300 millions.
Non, à suivre. Voilà. Hey, on ouvre les lignes après la pause.
88-670-9098. Concernant le dossier des fermetures de patinoires, la Ville de Québec dit ben on veut économiser à peu près 30 000 $ d'entretien par patinoire parce qu'il n'y a pas de monde.
Il n'y a pas de monde. Puis là, on apprend qu'il y a du monde.
Ben là, dans vos quartiers, est-ce que vous utilisez les patinoires de quartier? Est-ce que vous voyez du monde là-bas?
Ben moi, tu vois, à Limoilou, à côté du cégep, quand je marche le soir, là, il y a tout le temps du
monde. Ça joue hockey?
Ben, il y a tout le temps du...
Ouais?
L'autre fois, il y avait peut-être 50 personnes sur la glace.
Ben, tu vois?
Ça criait, là. Il y avait du monde, puis des gelets de toutes les équipes de hockey, puis ça roulait. Puis là, tu vois, c'est un prof, lui, c'est dans le coin de... c'est dans le coin de Loretteville, effectivement. Le parc Vega, qui est adjacent à... Une école,
oui.
Ben, il dit, nous, on débarque là tous les jours, là. En janvier, février, moi, je fais sortir ma gang sa patinoire. Là, c'est-tu comptabilisé, ça, les jeunes qui vont qui partent des cours d'école puis qui vont sur la patinoire?
Oui. Écoutez, on veut savoir, d'un, vous en pensez quoi? Puis deux, est-ce que vous utilisez les patinoires? Est-ce que vous voyez du monde les utiliser? Êtes-vous pour ça qu'on décide de sauver de l'argent parce qu'on dit que c'est pas utilisé?
Non, mais attends, sauver de l'argent.
Ben, c'est ce qu'on dit, là.
Ben, c'est parce que de l'autre bord, tu vas construire des patinoires à 13 millions.
Ouais,
et ça va te coûter 300 000
$
par année d'entretien, de staff et de tout. Donc, on attend votre appel. On veut vous entendre.
88-670-9098.
On revient après la pause.
Couture.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Dans le mid. Radio